On parle de ce temps d'un week-end, les jours étranges, dans le cadre de cette nouvelle exposition temporaire, j'y crois pas, qui prend lieu au musée de Bretagne et au Champ Libre, tout ça jusqu'au 1er avril. Romain, notre prochain invité, c'est un peu le papa dans son domaine pour un paquet de, comment dire, de Benjamin, de disciples. Il s'agit de Thierry Collet.
Et oui, Thierry Collet qui cite « Il n'y a pas pour l'homme de fardeau plus grand que la liberté et pas de souci plus cuisant que de trouver au plus tôt un être à qui déléguer ce don de liberté ». Il cite là Dostoïevski dans la Grande Le Grand Inquisiteur. Pardon. Thierry Collet, bonjour.
Bonjour.
Depuis
bonjour.
Vos 7 ans, vous aimez la magie, la prestidigitation, mais vous trouvez au bout d'un moment que ça manque un petit peu de fond, tout ça. Donc vous vous lancez donc dans le théâtre avec du collectif. Du coup, le magicien, lui, travaille toujours seul pour préserver ses tours. Le théâtre, lui, au contraire, partage, mélange. La pédagogie vous intéresse aussi beaucoup, on pourra en dire quelques mots, mais vous travaillez sur une magie mentale, un spectacle interactif et théâtral, c'est en tout cas ce qu'on verra pour Influence, chaque chant que vous présenterez également. Je pense, donc je clique. Si vous le voulez bien, on va commencer avec ce spectacle, ce gros spectacle qu'est Influence, un questionnement humain, social, politique. Vous voulez vraiment que les spectateurs, suite au trouble, à l'excitation, à la stupeur et à l'inquiétude que les effets magiques ont fait naître en eux, perçoivent le monde et les relations humaines autrement, qu'ils sortent moins crédules et influençables, qu'ils aiguisent leur sens du doute et leur esprit critique. Ce n'est pas vraiment pourtant ça un magicien d'habitude. Le magicien préfère profiter un petit peu de la crédulité des gens. Est-ce que vous ne vous faites pas un peu détester parfois par la profession en agissant comme ça?
Alors je me suis un peu fait détester, mais pas pour les deux spectacles qui viennent là au Champ Libre. Non, parce que alors mon projet c'est pas de renoncer à la magie. Hein. J'adore la magie. Je suis magicien, j'allais dire avant tout. Donc j'aime bien que quand il y a la magie, il y a la magie quoi. Mais je pense que la magie, elle pourrait nous aider parce que les outils du magicien, bah, le magicien, il doit savoir mentir, il doit connaître un petit peu le cerveau humain, il doit s'intéresser un petit peu à nos comportements. Donc il y a des aspects cognitifs. Donc je trouve que c'est des outils qui sont partagés par plein de gens aujourd'hui. Hein. C'est des outils qui sont partagés en recherche scientifique, par exemple, hein, mais aussi du côté de la publicité ou du marketing. Savoir convaincre, obtenir de l'adhésion. Et puis si on suit un petit peu cette piste-là, on pourrait dire que du côté de nos amis politiques, c'est des outils aussi dont ils peuvent avoir besoin. Et je dirais que toute personne qui s'occupe de propagande, hein, politique, religieuse, et tous les domaines des experts, à partir du moment où on veut obtenir de la croyance, de l'adhésion et une forme de prosternation, les outils du magicien peuvent être d'une grande utilité. Donc mes dispositifs, comme celui dans Influence, servent à alerter d'une certaine façon les spectateurs sur le fait que, oui, certes, on regarde un spectacle de magie, mais ce qui est à l'œuvre devant nous nous fait penser à d'autres moments, d'autres endroits dans notre vie de citoyens et d'êtres humains où ces mêmes ressorts de pouvoir, d'autorité sont à l'œuvre.
Vous identifiez trois choses différentes là-dedans. En premier, marketing et publicité. Ensuite, en second, la propagande politique ou religieuse. Donc pas en second, deuxième, puisque vient après les vies personnelles et intimes aussi. Dans le marketing et la publicité, on comprend assez bien que les ficelles sont grosses, que effectivement l'enjeu il est principalement économique. Donc à la limite, c'est presque des magiciens un peu faciles mais inoffensifs. On est d'accord?
Bah oui et non, parce qu'il y a des tas de moments où le marketing, l'industrie, le politique se rejoignent. Enfin, c'est très poreux tout ça. Je trouve que quand on s'intéresse à ces comportements-là, je dirais qu'il n'y en a pas qui sont plus dangereux, plus inoffensifs. Il faut les regarder et puis voilà.
Même quand c'est de la propagande politique ou religieuse, là, il y a peut-être plus d'enjeux justement.
Oui. Après, parfois, ça peut être très bien que des leaders charismatiques qui prônent, je sais pas quoi, la démocratie puissent aussi parfois utiliser des outils de persuasion. Donc, les outils sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes. C'est la façon dont on les utilise et la fin.
Donc il faut aiguiser son sens du doute, mais ne pas non plus devenir complètement ne croire en rien, notamment quand vous parlez des vies personnelles et intimes, laisser vivre un peu de magie, ces moments magiques, c'est aussi important de s'accorder un peu de crédulité pour se sentir humain.
Je sens que ça vous plaît, ça tout d'un coup, vous le revendiquez, l'espèce de... Ouais, tout d'un coup. Mais oui, bien sûr, il ne s'agit pas de renoncer à la magie, c'est une aspiration qui est tellement ancienne en plus, c'est très primitif, hein, pouvoir... Moi, je me dis toujours, en fait, les premiers magiciens, c'est les gens qui ont donné du sens à... C'est les sorciers, c'est les chamans, en fait, c'est les gens qui ont regardé les étoiles et qui ont dit, bah voilà, ça, en fait, c'est la grande ours, qui ont commencé à nommer, qui ont donné du sens, qui nous ont relié à des... à des éléments plus vastes et en nous donnant du sens à nous, êtres humains, dans une cosmogonie, dans un, voilà, dans un univers qui était plein de mystères. Donc, oui, oui, de toute façon, on a besoin du mystère, on a besoin de l'inconnu, on a besoin d'utopie, on a besoin de rêverie, de monde, peut-être meilleur, en tout cas autre, différent. Et après, moi, je pense que c'est pas antinomique avec le fait d'avoir envie de comprendre et de décoder. Je pense que peut-être une maladie de société, en tout cas une espèce de chose que j'observe qui est complexe, ça serait de réussir à faire la différence entre le moment où on est dans le domaine de la croyance et le moment où on est dans le domaine du savoir. Et savoir différencier cette aspiration à l'au-delà, à des mondes, voilà, à des mystères. Et puis quand même, la nécessité de la pensée rationnelle, d'une pensée qui construit, d'une pensée critique. Il ne s'agit pas de dire c'est ça ou ça, mais je pense que ça peut être ça et ça. C'est les deux.
Est-ce qu'il y a des moments justement qui suscitent votre attention particulièrement pour faire la différence entre croyance et savoir justement? Est-ce que vous avez des réflexes maintenant pour vous dire « Ah, là, ça répond plutôt à ce cerveau-là, là, plutôt à ce cerveau-là »
Alors après, c'est pour ça que je fais des spectacles, c'est que j'ai envie de m'y confronter à chaque fois avec des thématiques différentes. Me dire que là, les deux spectacles qui viennent au Champ Libre, ils l'interrogent de façon différente. Là, dans Influence, c'est beaucoup lié à la question des déterminismes. Est-ce qu'à force de vivre dans une même société, jusqu'à quel point on partage les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a besoin d'être d'accord pour vivre ensemble? Ça serait une question que je pose même dans le spectacle. Je la pose littéralement. Et puis dans Je clique, donc je suis, là, on est plus sur la question de la captation et de l'utilisation des données personnelles. On dit aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est la vie privée? Alors certains mentalistes qui donnent l'impression de rentrer dans le cerveau des spectateurs, en quoi il est très différent aujourd'hui, en quoi son métier est différent de celui des gens de Facebook, de Google ou des gens de la sphère internet qui en font commerce aussi de nos données personnelles. Donc je fais des petits parallèles entre nos professions respectives.
Dans vos spectacles, le public interagit et c'est d'ailleurs en grande partie comme ça que ça fonctionne, j'ai l'impression. Comment ça marche pour que justement ce soit pas cacophonique, que tout le monde parle en même temps, parce que quand on demande au public d'interagir, soit on tombe sur des timides ou alors on tombe sur des gens trop bavards. Comment vous gérez tout ça?
Bon, je dirais que la magie, ça amène une certaine connaissance de l'être humain et de la des façons d'interagir. Ça se travaille, c'est des choses, et après ça reconnaît aussi ce qui transparaît pour moi assez souterrainement dans beaucoup de spectacles de magie mais qui n'est pas nommé, c'est que ce sont des dispositifs qui sont très autoritaires et que dans le fond on donne pas tellement le choix aux gens, et que quand on fait choisir une carte, ben on va dire que 50% du temps le magicien oblige le spectateur à choisir une certaine carte, et dans 50% du temps ben il s'arrange pour que la carte choisie, il puisse la connaître ou en tout cas la contrôler. Donc sous des allures de « non mais c'est comme vous voulez, on fait comme vous voulez, tout va bien », les dispositifs magiques sont toujours des dispositifs autoritaires. Après, il y a des tas de stratégies d'autorité différentes. Ça peut passer par le charme, par l'expertise, la confiance, l'humour, l'autorité directe, la peur, l'inquiétude. Enfin, il y a tout un tas de stratégies sur lesquelles je travaille, moi, mais les autres magiciens aussi. Hein. En fait, je ne fais pas de la magie très différemment des autres magiciens. Simplement, j'ai l'impression peut-être que je dissèque un peu ce qui se passe quand on est face à un spectacle de magie.
On peut pas faire un travail comme vous le faites en improvisation. C'est impossible.
Ben si, parce qu'en même temps, les gens ils sont différents tous les soirs. Moi, je travaille avec des salles différentes. Et c'est pour ça que je m'ennuie jamais en jouant. Influence, il joue depuis 2009. C'est sa 9e saison. Et je suis très heureux de continuer à le jouer parce que tous les soirs, je me dis qu'est-ce qui va se passer? Je clique donc « Je suis », c'est sa 4e saison, et ça démarre, je me dis « Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ?»
Il y a eu un tournant, en tout cas c'est identifié comme ça, vous me direz si je me trompe, avec « Même si c'est faux, c'est vrai », ça aurait pu être d'ailleurs le titre de l'exposition « J'y crois, j'y crois pas », vous êtes à peu près avec la petite forme aussi « Vrai, faux, rayer la mention inutile », c'est identifié comme un tournant dans votre carrière, un peu sur la forme. Est-ce que vous partagez cette impression-là, et si oui, dans quelle mesure ça en a été un?
Oui, c'est des tournants importants parce que mes premiers spectacles, moi j'étais très marqué par le théâtre. En fait, j'ai grandi en banlieue parisienne à côté d'un théâtre qui se construisait dans les années 70, qui était un grand lieu de la décentralisation culturelle des années 70. Le théâtre Paul-Éluard a choisi le roi. Gloire au théâtre Paul-Éluard a choisi le roi, où j'ai vraiment vu des très grands spectacles de théâtre qui pouvaient convoquer la magie, l'illusion. Donc, ma quête de sens autour de la magie, c'est-à-dire que le fait que ça ne soit pas utilisé que comme une énigme, comme du truc, quoi, ça a été de se dire, faisons du théâtre avec ça. Donc, bâtissons des narrations, des fictions. Peut-être j'ai fait des spectacles avec d'autres interprètes, acteurs, et puis avec des metteurs en scène. On faisait des adaptations de textes qui étaient écrits, tout ça. Donc, c'était très théâtral. Et puis, à un moment, je me suis dit, peut-être qu'il ne faut pas passer par là, parce que c'est trop... On colle trop entre ce qui est dit et ce qui est montré, c'est un peu trop, c'est des pléonasmes, quoi. La magie, ça fonctionne théâtral, ça fonctionne pas sur scène comme des effets spéciaux de cinéma. Et je trouve que le théâtre a besoin d'une forme de distance ou de jeu avec les codes, où on peut pas coller à ce point-là son sujet au théâtre, je pense. Donc je me suis dit, on va... Et au même moment, j'avais l'impression que les auteurs de cirque, les gens qui faisaient du cirque contemporain ou du cirque nouveau, avaient une relation qui était beaucoup plus libre au sens, au texte, et pouvaient être plus insolents, moins révérencieux. Ils pouvaient prendre des bouts de textes littéraires, mélanger ça avec la parole personnelle, avec le bottin téléphonique, avec je sais pas quoi, avec des machins. Enfin, ils étaient très libres parce qu'ils questionnaient une thématique et ils n'étaient pas dans le respect à un auteur précis. Ils n'étaient pas liés à un auteur précis. Donc j'ai commencé à travailler comme ça, à partir de même si c'est faux, c'est vrai, et à me poser notamment des questions autour de la perception. Voilà.
Et depuis, ça se poursuit avec notamment une forme dont on a déjà touché quelques mots, Thierry Collet, une forme technologique au plus haut point qui en tout cas suit cet avènement de la religion du tout technologique. Plus de cartes à jouer, mais des téléphones portables. Vous les invitez pour, non pas je pense donc je clique, comme j'ai dit tout à l'heure, je clique donc je suis. C'est construit, c'est une petite forme, une forme qui parle d'un futur. Un futur où vous n'oubliez rien. Dans ce futur nouveau, vous n'êtes jamais perdu. Nous connaîtrons votre position au mètre près et bientôt au centimètre près. Vous n'êtes jamais seul. Vous ne vous ennuyez jamais. Les idées ne viennent jamais à vous manquer. Là, ce n'est pas un essayiste ou un artiste mégalo. Mégalo, il l'est peut-être. Il s'agit d'Eric Schmidt, dirigeant de Google, que vous citez. Sa fortune personnelle s'élève à 13,5 milliards d'euros. Ça, c'est une petite parenthèse. En juin dernier, il annonçait « Nous allons voir émerger l'ère de l'intelligence ». Ce personnage a l'air de vous avoir beaucoup inspiré. Vous le citez beaucoup dans votre dossier de présentation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?
Mais oui, moi je le trouve fascinant parce que les Américains sont assez forts là-dessus parce que il est tellement pragmatique qu'il en arrive à nommer des choses qui pour nous sont tout à fait insupportables à entendre. Mais en fait, il les justifie par une espèce d'efficacité. Il dit des choses passionnantes sur la vie privée. Il dit, mais en fait, la vie privée, c'est une invention assez récente parce que dans les sociétés traditionnelles, dans les petits villages, par exemple, tout le monde se connaît. Donc, il y a une entraide sociale. On sait ce que fait son voisin. Donc, on peut lui porter aide aussi. Alors que dans les grandes villes, évidemment, l'anonymat fait qu'on ne connaît plus nos voisins. C'est l'horreur, la déshumanisation. Donc, il dit, mais en fait... naturellement, l'être humain, il est pour le partage de ses données. Il est pas pour séparer sa vie privée. Évidemment, ce qui est en train de se faire, c'est une espèce de retour aux sources, à un état naturel de l'être humain.
Il nous explique aussi, si vous détenez un secret que vous souhaitez garder, peut-être que vous n'auriez pas dû vous conduire de manière à le créer. On retrouve quand même pas mal de petites choses assez... Enfin, c'est très bien expliqué, mais c'est
assez logique.
C'est d'une certaine logique, en effet. Ce spectacle, Je clique, donc je suis, se pose sur le modèle du Google Campus. Vous pouvez me dire un peu à quoi ça ressemble ? Pourquoi vous avez mobilisé ce dispositif-là ?
Déjà parce que j'alterne moi des formes plateaux, comme influence par exemple, et puis ce qu'on appelle les petites formes qui peuvent se jouer un peu dans des lieux très divers. Et là, moi j'avais envie que les gens ils fassent des expériences, qu'on soit vraiment très interactif. Donc les gens gardent leur téléphone branché et puis on découvre ensemble des nouvelles applications qui peuvent sembler assez rigolotes et assez ludiques, et puis qui au fur et à mesure de la représentation se révèlent un petit peu plus intrusives. Mais il est trop tard. Il est déjà trop tard. Donc l'idée de l'interaction, elle m'intéressait. Puis l'idée d'une sorte de piège aussi, c'est-à-dire on se prête à une expérience et on est le jouet d'une autre qui se passe. Parce que c'est beaucoup ce qui se passe dans le monde réel. Hein. On signe des contrats, on accepte de télécharger une application, je sais pas, s'inscrire à je sais pas quoi, machin. Et puis évidemment, on met le doigt dans un engrenage qui est plus vaste que celui-là. Donc j'avais assez. Puis moi j'aimais bien l'idée de la réunion Tupperware où on échange autour, on regarde des produits ensemble, on regarde leur qualité, leurs limites, à quoi ça sert, tout ça. Et puis voilà l'aspect convivial, un peu pseudo-sympathique, comme il peut y avoir. En plus on a des images de ces entreprises, de ces nouvelles entreprises, de la technologie où tout le monde a l'air tellement happy, avec des petites casquettes colorées, il y a des coins détente. On peut même laisser les enfants s'amuser, les coins pour les jeux. Il y a des aires où les salariés peuvent se ressourcer entre midi et deux, je sais pas quoi. Enfin, tout a l'air d'être fait pour le bien-être. Donc je trouvais assez bien. C'est quand même tellement des entreprises qui travaillent pour notre bonheur, pour et faire évoluer l'humanité. Donc voilà, j'aimais bien cette idée d'un campus sympa.
Le fait que ce spectacle soit très impliqué justement dans l'ère de l'innovation, notamment technologique, c'est ce qui fait sa force certainement pour les programmateurs, vous pensez ?
Ah bah oui, je pense à... Ouais, après, moi je vois aussi beaucoup de spectacles qui peuvent utiliser ou travailler sur la question des nouvelles technologies, mais qui auraient tendance à les glorifier ou à les utiliser d'une façon un peu esthétisante, même des courants de magie, hein, et en même temps c'est passionnant, hein, mais qui travaillent beaucoup sur la fiction, la boîte noire, où on sent qu'il y a des choses qui peuvent faire référence aux pionniers du cinéma, qui sont une espèce d'hommage à Méliès, hein. Avec des natures d'images qui sont entre la vidéo, l'hologramme, l'image réelle, tout ça. Donc très esthétiques, qui ont leur vertu, hein, et puis leur pouvoir de fascination. Mais moi, je trouve qu'il y a... Je vois peu de formes, ça vient un peu maintenant, hein, mais qui mettent en critique ces nouveaux outils, et notamment qui questionnent nos comportements. Et justement, notre confusion entre croire et savoir, on ne fait pas trop la différence aujourd'hui entre ce qu'on sait et ce qu'on croit d'entreprises comme Google, par exemple. Le Google X-Lab, là, il bosse sur le transhumanisme, il bosse sur des biotechnologies. En même temps, cette Google Car, est-ce qu'elle existe vraiment ? Est-ce qu'elle est toujours à l'état de projet ? Ces Google Glass qui ont été un peu abandonnés puis qui reviennent. Il y a ces lentilles de contact pour les diabétiques là, qui mesurent la glycémie. Alors on se dit, ouais, ça existe. Mais il y a une espèce de fiction autour de ces entreprises-là. Je trouve qu'ils rejoignent un peu la question de la magie. Il y a une forme d'opacité et on ne sait pas très bien s'il faut croire ou savoir. Voilà, ça m'intéresse, ça.
On découvrira tout ça dans Je clique. Donc, je suis samedi à 17h45 ou dimanche à 14h30 et 17h en salle Magenta. Et Influence, c'est ce soir à 20h. Dans Influence, vous citez vos sources d'effets magiques. On trouve de nombreuses références, Martin Lewis, David Knight, Darren Brown, Bob Kohler et bien d'autres. C'est important dans la magie, ça, de... citer ses sources, on va dire, de rendre hommage à ses pairs.
Ouais, alors effectivement, je l'ai fait dans Influence, je ne l'ai pas fait dans Je clique, donc je suis... parce que se poser la question de est-ce que c'est un spectacle de magie ou pas, je pense que j'avais dû... Honnêtement, je ne sais plus pourquoi je ne l'ai pas fait. Et dans le tout dernier, là, dans la peau d'un magicien que j'ai créé cette saison, je l'ai refait. J'ai remis les sources des effets de magie. Bah ouais, parce que quand... Un metteur en scène qui emprunte à différentes sources d'auteurs de textes écrits, bah, il les cite dans son programme et puis bah, moi je cite les gens qui ont pensé avant moi et qui ont inventé les effets de magie. Voilà.
Kurt Demi invente ses propres effets de magie, il me semble, on le questionnera dans quelques instants. Moi je vais revenir sur votre côté pédagogue aussi, vous aimez beaucoup faire de la pédagogie parce que ça vous permet de définir la place singulière de l'acteur magicien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une formation, à chaque fois du coup même que vous faites un spectacle, cette position-là se redéfinit ?
Oui, oui, je me pose pas mal de questions. oui, je continue beaucoup à m'en poser. Mais dans la pédagogie aussi, de toute façon, c'est toujours bien d'aller enseigner des choses qu'on ne sait pas trop faire, parce que c'est la meilleure façon d'apprendre à les faire aussi soi-même. Moi, je ne sais pas grand-chose, en fait. J'ai émis des hypothèses à travers des spectacles. Et voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse de jouer des répertoires anciens. Bah, là 2009 pour Influence ça commence à faire et je vois bien que je le joue plus aujourd'hui comme je le jouais en 2009. Forcément, alors c'est les mêmes effets, c'est la même chose, la même trame, là, là, mais je ne m'adresse pas parce que je pense que le monde, il ne faut pas parler aux gens, enfin il ne faut pas, il ne faut rien, mais moi je n'ai pas envie de parler aux gens de la même façon aujourd'hui qu'en 2009. En 2009, je trouvais que la magie, elle était tellement gentille, elle était tellement gluée dans sa tradition encore, donc je me suis dit, mais il faut être méchant avec les gens, il faut leur dire que la magie c'est méchant, il faut, je ne sais pas quoi, faut faire le Ludor Citric de la magie, enfin il faut les... Ah, faut que la magie s'arrête d'être ce truc qui nous ramène à cette idée de l'enfance, blabla, je sais pas quoi, tout ça. Je pense plus tout à fait la même chose aujourd'hui, mais sans doute parce que j'ai fait ça à un moment donné et puis que voilà, j'ai fait d'autres choses. Donc, bah oui, je change. Et la pédagogie, ça m'aide à faire venir aussi d'autres gens. En fait, j'enseigne pas tellement la magie à des magiciens. J'enseigne la magie plutôt à des gens qui font d'autres métiers, qui sont plutôt des gens de cirque, des interprètes, des clowns, des acteurs, des circassiens, des danseurs, voilà. Et donc c'est comment eux ils s'emparent de l'outil, quel retour ils me font face à cette pratique. Donc ça m'apprend beaucoup de choses aussi de ça.
Vous avez cité beaucoup de professions, clown, interprète. Alors nous, on va essayer de faire un peu d'explication de texte pour nos auditeurs aussi. Si j'ai bien compris, le magicien, lui, va manipuler des objets. Le mentaliste, lui, va plutôt manipuler des pensées. Vous êtes quand même avant tout un comédien. Comment est-ce qu'on déconstruit un petit peu tout ça pour faire un peu de vulgarisation pour nos jeunes auditeurs?
C'est-à-dire parler des styles, des codes, dire qu'est-ce que c'est le mentalisme, tout ça?
Éventuellement. Enfin, est-ce que déjà je me trompe sur magicien-objet, mentaliste-pensée plutôt? On est là-dedans?
Oui, et moi je rajouterais quand même une chose importante. Le magicien donne l'impression de manipuler les pensées. Il donne l'impression de... c'est quand même un truc important parce qu'il y a plein de gens qui y croient. Notamment après Influence. Et pour moi, c'était un des échecs d'Influence. Donc j'ai fait un spectacle dont j'étais désespéré de l'avoir fait et qui continue à tourner, que je continue quand même à jouer. Alors je suis pas désespéré tous les soirs de le jouer, mais je trouve que les gens ils y croient trop, quoi. C'est pas possible. Alors que moi j'avais très envie qu'ils n'y croient pas en sortant, qu'ils disent mais quelle arnaque. En plus ça se passe dans un bureau de vote, on fait voter les gens font tellement entubés et tout ça, et ils disent oh mais quand même le déterminisme social c'est vrai. Moi je pense qu'on peut prévoir mes choix, tout ça. Et je me lève les yeux au ciel en me disant mais ah c'est pas possible, on va jamais s'en sortir et tout. Donc non, le mentaliste il donne l'impression qu'il lit dans les pensées, mais il ne le fait évidemment pas vraiment. Personne ne peut le faire vraiment, ça se saurait.
Est-ce que vous n'êtes pas tenté, ce sera ma dernière question, d'utiliser toutes ces tactiques de manipulation dans votre vraie vie à des fins pas forcément bienveillantes?
Alors c'est rigolo parce que quand j'ai fait Même si c'est faux c'est vrai, quand j'ai commencé à me poser ces questions sur la perception, je me suis dit bon, il faut que je renouvelle mon rapport aux professionnels, aux diffuseurs. Donc ça c'est les gens qui achètent nos spectacles, diffuseurs et diffuseuses de spectacles vivants, qui étaient principalement des gens qui diffusaient du jeune public, parce que mes premiers spectacles narratifs ils diffusaient dans un cadre jeune public, et puis ça m'a insupporté au bout d'un moment de me dire encore une fois ce truc, pourquoi est-ce qu'on lit systématiquement la magie à l'enfance? Donc allez, tout ça, on va ailleurs. Et je me suis dit, mais tiens, est-ce que je pourrais, dans les rendez-vous, leur faire les amener à acheter mon spectacle? Est-ce que je pourrais utiliser mes... Donc, je leur faisais un tour. Je leur faisais signer une feuille de présence en début du rendez-vous. Je leur faisais, voilà, ou un autographe. Je leur faisais signer un truc sur un petit papier qu'ils gardaient. Et à la fin du rendez-vous, je leur demandais de regarder ce qu'ils avaient signé. Et était apparue une écriture qui les engageait à coproduire avec une coproduction extrêmement importante et à s'engager à une diffusion très longue de la... Et je me disais, ils ont signé. Alors, ce dont je me rendais compte, c'est que ça ne déclenchait pas forcément une réalisation de la prédiction ou de l'obligation, mais en tout cas, ils gardaient le papier. Parce que quand même, c'était un peu faustien le truc. Ils disaient, non, mais je le garde, non, je ne te le laisse pas. Il y avait quand même une espèce de réalité à ce truc. Donc non, je suis pas sûr que la magie puisse m'aider énormément dans ma vie de tous les jours.
Manipuler de façon bienveillante, ça c'est possible éventuellement aussi? Manipuler les gens pour leur bien, c'est ce que vous faites en spectacle?
Ah mais moi je fais tout pour le bien des gens. Moi je veux... De toute façon, on veut être aimé. De toute façon, quand on est artiste, on veut tellement être aimé que dans le fond, in fine, oui, on a plutôt tendance à faire les choses pour qu'on nous aime, en tout cas.
Merci beaucoup, Thierry Collet.